On vient de parler de la COVID. Parlons maintenant des patients qui ne sont pas des cas de COVID. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on répète que des médecins spécialistes ont moins de patients ou encore, et c'est le cas de ce matin, se retrouvent avec des patients plus lourdement hypothéqués. Des gens qui, on parle de cancer, sont maintenant dans un stade très avancé. Radio-Canada fait mention d'un document du ministère de la Santé où on montre que quelques 5 000 cas de cancer n'auraient pas été diagnostiqués depuis les premiers mois de cette pandémie. Donc, des gens qui n'ont pas eu le diagnostic et qui se retrouvent plus tard avec, disons, des problèmes plus sérieux. J'en parle avec le docteur Martin Champagne, qui est le président de l'Association des médecins hématologues-oncologues du Québec. Docteur Champagne, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
D'abord, 5 000, là, ça frappe quand on entend ça. Je comprends que c'est une projection, mais c'est beaucoup, là.
En fait, c'est pas très surprenant. Il y a environ 60 à 65 000 nouveaux cas de cancer nouvellement diagnostiqués par année au Québec. Alors, si vous mettez ça sur une base mensuelle, on parle d'environ 5 à 6 000 patients qui sont diagnostiqués chaque mois d'un cancer.
Alors, comment ça se fait qu'on n'a pas pu diagnostiquer ces gens-là?
Alors, dès le début de la pandémie, on a mis à l'arrêt total les programmes de dépistage par mammographie et de sang occulte, de sang dans les selles qui amènent à une coloscopie pour le dépistage du cancer du côlon. Il faut savoir qu'environ 10% des cancers nouvellement diagnostiqués sont des cancers asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils ont été trouvés par hasard, donc dans des tests de dépistage, mammographie, coloscopie, ou simplement parce que vous avez eu un autre test où on a découvert une tache sur votre poumon ou sur un organe. Donc, beaucoup de ces cancers-là qui sont asymptomatiques sont des cancers très précoces, donc des cancers qui sont à visée de guérison. Alors, en mettant à l'arrêt complètement le programme de dépistage de mammographie et de cancer du côlon, on a de facto sacrifié un certain nombre de patients en prenant comme prémisse qu'on avait le temps de reprendre les activités avant que les cancers se manifestent. Donc ça, c'est un premier groupe de patients. De plus, durant toute la période, les gens ont eu un accès moindre à leur médecin. Alors, il y a eu moins de tests de dépistage de l'APS, le marqueur pour le cancer de la prostate. Il y a eu moins de tests de recherche de sang dans les selles. Donc, tous ces tests-là qui amènent donc aux tests diagnostiques ont été réduits. Alors, intuitivement, c'était notre impression sur le terrain que les activités avaient été réduites de façon significative. Et là, on a les premiers chiffres qui déjà sont dates. C'est déjà pour la période qui couvre de avril à juin. Et on sait que l'été a été l'objet d'un ralentissement encore des activités. On a vu que le taux de chirurgie ou le nombre de chirurgies en attente est passé de 75 000 à 92 000. Donc, on peut soupçonner que ce n'est que la pointe de l'iceberg.
OK. La question qui se pose, ça veut dire que des gens qui n'ont pas eu le diagnostic, la maladie a continué de progresser. Et ces gens-là, vous arrivez aujourd'hui, vous êtes un médecin spécialiste, là. J'imagine qu'avec des cas beaucoup plus lourds, dans la pratique normale, vous auriez des cas plus légers, puis des cas moyens, puis des cas très avancés. Est-ce que vous avez encore des cas là, qu'on diagnostique au départ ou si vous avez strictement des cas lourds à gérer?
Très peu de patients asymptomatiques. Présentement, la grande majorité des patients que l'on voit sont très malades. Il y a des patients chez qui les tests ont été retardés. Il y a des patients qui ont eu des difficultés d'accès à leur médecin au départ. Alors, les patients qu'on voit ont des maladies avancées. Le prix à payer pour le patient est important. Si vous avez une tumeur très localisée, très petite, vos chances de guérison sont peut-être de 80% avec une chirurgie seule. Et lorsque vous présentez avec une maladie plus avancée, vos chances de guérison sont amenuisées. Elles sont peut-être de 50-60% avec un traitement plus lourd qui va combiner parfois de la chimiothérapie en plus de la chirurgie, parfois de la radiothérapie, parfois de la combinaison de tout ça. Et votre risque de rechute étant augmenté, il y aura plus de patients qui, dans les prochaines années, vont présenter des récidives de leur cancer, ce qui nécessite des traitements lourds. Donc, on perd une opportunité de guérison à l'heure actuelle et on va augmenter le fardeau tant pour les patients, surtout pour les patients, mais aussi pour la société de façon globale et le système de santé pour plusieurs années encore.
Si je résume, Dr Champagne, ça veut dire qu'il y a des gens qui auraient pu être sauvés ou en tout cas où le traitement aurait été plus facile et qui se retrouvent aujourd'hui face à un mur, c'est-à-dire un bilan de santé qui les amène tranquillement vers la mort.
Tout à fait. Malheureusement, il y a des patients chez qui on prend la requête qui aurait pu être dans la pile des patients à visée curative, puis on la met dans les patients pour lesquels les soins sont des visées palliatives. Alors oui, malheureusement, on a à faire ça.
Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Mais je pense que présentement, il faut mettre en place les remèdes, là. On est dans le système de santé, là, donc qui vont permettre de maintenir l'activité. On peut pas s'improviser infirmière ou inhalo en salle d'opération pour des chirurgies compliquées. Alors, il faut que le gouvernement mette tout de suite en place les mesures afin que le personnel des salles d'opération, le personnel infirmier dédié des salles de chimiothérapie ne se promène pas d'un site ou d'un département à l'autre. Il faut isoler ces équipes-là et les protéger. Les patients ont encore la crainte de se présenter pour leur bilan de santé. Il faut faire des zones froides ou des zones blanches, des zones sans COVID, qui permettent l'investigation du patient, même si la pandémie s'accélère. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir des fast tracks, si vous permettez l'anglicisme, des pistes de solutions rapides qui permettent d'orienter le patient afin qu'il soit évalué dans une zone sécuritaire pour lui. La réalité, présentement, il y a encore beaucoup de patients qui ne se présentent pas au rendez-vous. Les gens ont encore peur. Et là, on est au balbutiement de la deuxième vague. Certainement que cette crainte-là va s'accentuer. Donc, préserver les équipes, préserver les milieux pour les patients, s'assurer d'un milieu sécuritaire pour eux, ça, c'est des choses essentielles. Et après ça, il faut maintenir les activités sur une base annuelle. Le cancer, la maladie du cœur, tue davantage de patients que la COVID. Présentement, malheureusement, le constat qu'on doit faire, c'est qu'on peut mourir de tout au Québec, sauf de la COVID.
Mais, Dr Champagne, on manque d'infirmières, d'infirmières auxiliaires. On prend des infirmières pour les envoyer dans les centres de dépistage. Bref, on vide certains départements à l'hôpital. Puis on manque de monde. Est-ce qu'on peut être réaliste de penser qu'on peut faire fonctionner davantage les blocs opératoires?
Ben, il faut être imaginatif. Je pense qu'une infirmière de bloc opératoire, c'est une personne qui est irremplaçable par l'expertise qu'elle détient. C'est la même chose que le chirurgien cardiaque. Demander au chirurgien cardiaque d'aller sur une unité COVID pour prendre soin de patients de COVID, ça n'a pas de bon sens. C'est pourtant ce qui a été demandé au début de la crise. Alors, il faut préserver les équipes. Il faut être imaginatif dans les ressources que l'on a. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'infirmières, par exemple, pour faire le retraçage des patients en contact? Comment on peut faire? Je pense qu'il y a des postes où c'est peut-être plus facile d'imaginer des remplacements que d'autres situations où on a une expertise technique pointue qui est requise.
Merci, Dr Champagne. Bonne journée.
Parfait.
Au revoir, Dr Martin Champagne, président de l'Association des médecins hématologues oncologues du Québec. Et ça fait des semaines que je vous parle de ça, des effets collatéraux, là, des cas de patients non-COVID. C'est vrai pour les cas de cancer, mais c'est vrai aussi pour d'autres types de chirurgie. C'est pas toujours une question de vie ou de mort, mais ça peut être une question de qualité de vie. Et des gens qui attendent 18 mois, 24 mois pour être opérés, et ils ont une vie, je dirais, hypothéquée par le report de leur chirurgie.